se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23. On est ensemble jusqu'à 15h et c'est un vrai bonheur d'être avec vous, avec Thibaut Texer, avec Pierre-Édouard Magnan, avec Fatima Benomar, avec Fred Hermel. Dans un instant, on se demandera si Bruno Le Maire est ridicule de poser en pull désormais sur Twitter. Il a dit fini les costards cravates, désormais c'est pull. Il vaut mieux mettre un pull que de se chauffer. Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. À 14h, on parlera famille nombreuse. Une famille sur cinq en France est composée de trois enfants et plus. Mais alors, avoir une famille nombreuse, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? On attend bien sûr vos témoignages au 32-16 et sur l'application RMC. 14h30, RMC s'engage pour vous et l'histoire d'un couple en galère parce que son wedding planner a disparu avant le mariage, sans avoir rien fait, et puis surtout en prenant la compte, bien sûr, de 3000 euros. Amélie Rosic tentera d'aider Alexandre et Alexandra. Voilà, ce sont les prénoms de ce couple. Il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis un super cadeau à gagner sur AMC.
Oui, assister au match Tunisie-France à la Coupe du Monde au Qatar le 30 novembre prochain. Le transport, l'hébergement et vos places. RMC prend tout à ses frais. Vous pourrez aussi rencontrer l'équipe de journalistes RMC présente sur place. Pour ça, vous envoyez RMC au 732-16. RMC au 732-16. Le grand gagnant sera à l'antenne ce vendredi 30 septembre.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi à l'image du jour. C'est celle de Bruno Le Maire qui a posté une photo de lui en pull sur Twitter. Fini le costard cravate. Le ministre de l'économie souhaite donner exemple aux Français. Habillez-vous chaudement plutôt que d'allumer le chauffage.
Et oui, vous ne me verrez plus avec une cravate mais un col roulé, expliquait hier sur France Inter le locataire de Bercy qui a tweeté, tu l'as dit Estelle, quelques heures après, une photo de lui dans son bureau tout sourire avec un joli col roulé noir. Objectif, avancer, faire preuve de sobriété. Ça nous permettra de faire des économies d'énergie, expliquait hier matin Bruno Le Maire, dont le ministère a été pointé du doigt cet été pour utilisation abusive de la climatisation en pleine canicule. Une annonce qui intervient alors que la sobriété énergétique est le maître mot de l'exécutif pour éviter les coupures d'électricité cet hiver. Pour rappel, Elisabeth Borne appelait fin août à la responsabilité collective et à l'exemplarité de ses ministres, fixant comme règle, par exemple, de ne pas allumer le chauffage dans les cabinets au-dessus de 19 degrés. La première ministre a joint la parole aux actes hier à Matignon, en filant une doudoune pour une réunion.
Pierre-Édouard Magnan, est-ce que c'est ridicule de mettre un pull quand on est ministre de l'économie pour donner l'exemple aux Français?
Non seulement c'est ridicule parce que ceux qui s'étaient jusqu'à présent jamais posé la question de réduire leur consommation de chauffage, aujourd'hui ils ont
bien compris. Ni de mettre un pull d'ailleurs.
Et donc ils mettent un pull, mais c'est ridicule, mais en plus en termes de politique publique c'est absolument dérisoire, enfin je veux dire, c'est plus de la politique publique. Et à la limite c'est même quasiment insultant parce qu'il y a quand même des centaines et des centaines de milliers de familles dans ce pays plutôt pauvres et précaires qui habitent dans des passoires thermiques et qui ont depuis très longtemps découvert le pull. Et en plus je pense qu'ils achètent pas leur col roulé même endroit que le ministre. Et là, à la limite,
ouais, c'est du 5 fils, je pense.
Et la limite, c'est sans doute. Et là, en plus, on est quasiment à la limite, j'allais dire entre guillemets, de l'insulte. Au sens où on dit à des gens faut enfin être sobre alors que eux ils essayent de voir comment ils pourraient avoir plus de 15 degrés chez eux et essayer d'enlever un des trois pulls récupérés en distribution ou chez Tati qu'ils ont pu acheter. Donc non seulement c'est ridicule de manière générale, mais en plus c'est carrément méprisant à l'égard de plus en plus de gens dans notre pays qui sont déjà depuis bien longtemps dans cette situation. Et je répète, ils ont plus d'un col roulé sur les épaules. Donc franchement, si on en est là aujourd'hui, un peu du gouvernement, je parlais tout à l'heure, prendre un peu de recul sur réorganiser l'énergie, là on est vraiment au bout de la chaîne et au bout du ridicule, à mon avis.
Mais ça part quand même, Fatima, d'un bon sentiment. C'est-à-dire que Bruno Le Maire, il essaie d'être comme tous les Français, finalement, ou alors c'est vraiment une énorme erreur.
Tu n'y crois pas toi-même,
j'y crois moyennement, mais bon. Ça m'a fait sourire. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, c'est pas possible, il a osé. Mais voilà, après, je trouve ça très bien qu'il mette un pull, en vrai, parce que bon, le costard-cravate, on n'est pas obligé, mais c'est vrai que l'exemple que ça donne, c'est un peu gênant.
Pourquoi pas s'habiller aux couleurs de l'exemplarité, mais c'est pas ça.
C'est quoi la couleur d'exemplarité?
avec son petit col roulé, mais des politiques justes et efficaces, ça peut pas s'arrêter, c'est sûr, à ça. Et moi, ce que j'avais trouvé super choquant, effectivement, pendant la canicule, c'est d'entendre le gouvernement dire couper la wifi, baisser la clim, éteignez la lumière. Il y avait des patrons, notamment de Total, qui nous demandaient vraiment de faire attention à notre consommation d'énergie. C'est parmi les plus gros pollueurs. Et d'ailleurs, pour se rendre aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, le PDG de Total avait pris un avion privé. Donc, il a consommé en 2 heures ce que le ménage moyen consomme en 6 mois. Donc, c'est vrai que pour moi, pour moi, ce qu'on attend de politique, c'est surtout une ligne politique à ce service et au service et aussi des classes populaires. Comme tu as dit, à un moment, il va falloir faire ce plan de rénovation des thermiques des bâtiments. Il y a 1 Français sur 5 qui vit dans une passoire thermique et ça, il faut donc proposer une orientation pour le financer. Et c'est évidemment pour moi, par exemple, une imposition plus juste, une imposition plus progressive des revenus des patrimoines et la taxation évidemment des super profits qui ont été faits pendant la crise sanitaire et pendant la guerre en Ukraine.
Mais pas mettre des pulls.
Parce que non seulement c'est exemplaire, mais en plus c'est plus juste. Il faut jamais oublier que c'est vrai à échelle mondiale, mais même à échelle nationale en France, les 10% des plus aisés ont une empreinte carbone 8 fois supérieure aux 10% les plus pauvres. Et quand on arrive aux ultra-riches, les 1%, on est à 60 fois plus d'empreintes carbone que les pauvres à cause de leur mode de vie, à cause des yachts, à cause des vastes résidences suréquipées. Et beaucoup de nos dirigeants et des grands patrons font partie de cette classe sociale-là.
Ouais, donc,
ils sont dans ce mode de vie et de consommation-là. Donc, effectivement, encore une fois, on est dans la tartufferie parce que je suis persuadée que Bruno Le Maire, comme d'autres décideurs, notamment économiques, ont des modes de vie tellement
ça, t'en sais rien. Non, mais ça, t'en sais rien. Tu peux pas préjuger du mode de vie de Bruno Le Maire. En plus, il met des
pulls. Je pense que beaucoup de dirigeants politiques et de décideurs économiques ont des modes de vie de surconsommation.
Ça se trouve, ils roulent
en électrique, dans leur manière de transport et dans les grandes résidences suréquipées qu'ils habitent, qui ont un impact carbone beaucoup plus que les familles pauvres, mais en plus, effectivement, ça fait un moment qu'elles ont éteint le chauffage parce que, tout simplement, elles ne peuvent plus payer la facture.
Après, tu ne peux pas préjuger du mode de vie d'un ministre. En plus, s'il vit dans un logement de fonction de l'État, c'est lui qui est responsable du chauffage, etc.
Il y a un appartement de fonction à Bercy, je ne sais pas si Bruno Le Maire l'occupe, j'en sais rien.
Moi non plus, mais dans ces cas-là, ce n'est pas lui qui est responsable du mode de chauffage de Bercy. Qu'est-ce qu'il y a, Fred Hermel ?
Douce France, cher pays de mon enfant. Septième puissance mondiale, puissance nucléaire, le pays de Victor Hugo, de Napoléon et de Jules Ferry. Et aujourd'hui, nous parlons du pull à col roulé du ministre de l'économie. Mais moi, ça me sidère, ça me fait mal pour mon pays. En plus, c'est d'autant pire que. Mais c'est tellement ridicule. En plus, ce monsieur, il est cultivé, c'est un grand amoureux de littérature. Oui. Enfin voilà, en plus.
Bah, il est cultivé, il a le droit d'avoir froid.
Il a le droit d'avoir froid. Ouais, il a le droit aussi de ne pas nous prendre pour des cons. parce que c'est lui. Tu vois, je veux dire, tu comprends.
Ça réchauffe.
Tu vois ce que je veux dire.
Oui,
Tu vois à peu près le truc. Bah, en plus, il est coutumier du fait, parce que je sais pas si vous vous souvenez, parce que il fut un temps où il était aux Républicains, Bruno Le Maire. Mmh. Il avait même été candidat à la primaire des Républicains. Oui. Mmh. Et je me souviens il avait fait un coup comme ça médiatique pour arriver au débat télévisé. Mmh. C'était le seul à être arrivé lui-même au volant de sa voiture, sans cravate, du style, ouais, moi, j'ai pas de sécurité, j'ai pas de chauffeur, etc. En plus, c'est quelqu'un de brillant, mais qui tombe parfois.
Il est de son époque. On est à l'époque du buzz, etc. Il s'adapte.
On est à l'époque de la connerie. Je vais encore parler comme un. Pour moi, l'idée que je fais d'un ministre de la République, c'est autre chose que des gadgets comme ça. Je suis désolé de le dire.
Il donne l'exemple. On passe.
Quoi? Et ben moi, je vais pas le suivre. Non. Donc parce que moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de voiture, donc je ne mettrai pas de pull. Pourtant j'adore les cols roulés, en train de m'en dégoûter. Parce que pour un homme,
c'est pas Bruno Le Maire qui dégoûte de l'idée de mettre un pull.
Parce que moi j'adore avec une veste mettre un col roulé. J'en ai plein chez moi de cols roulés noirs comme ça. Avec une veste c'est très élégant, pour un homme de mon âge. C'est la résistance, Bobby. Et chez moi, je suis désolé, je vais pas mettre de pull chez moi. Parce que moi chez moi je suis en short du Racing Club de Lens avec un t-shirt et en tongs toute l'année et je paye le chauffage.
Mais
je fais ce que je veux chez moi. C'est pas Bruno Le Maire qui va me dire.
Il en a les moyens, point barre.
Ben oui, je me mets là où je veux, j'ai pas de voiture, j'ai pas de voiture, l'argent de ma voiture, du parking.
C'est pas parce que t'as pas de voiture ou pas d'enfant que t'as le droit de polluer.
Je suis désolé, je trouve cette injonction et cette culpabilisation des Français qui ne mettront pas de pull chez eux, c'est d'un ridicule.
Ils donnent l'exemple.
Ah oui, quand on donne ce genre d'exemple, c'est tu n'es pas un bon Français. Bah tiens, avec ce que je paye comme impôt, je peux dire que je suis un bon Français.
Il ne donne pas d'exemple, puisqu'en plus aujourd'hui, les hommes politiques, ou les femmes politiques d'ailleurs, n'ont plus le prestige pour être capables de donner des exemples. Alors on peut d'ailleurs, sur certains côtés, le regretter en certaines circonstances, ils n'ont plus effectivement ce moyen-là. Après, moi, ce que je trouve très grave, c'est d'apprendre que tu vis en tongs. Ça, c'est quand même.
Oui, chez moi, je suis en tongs.
Et d'ailleurs, est-ce que Bruno Le Maire va mettre des tongs pour t'imiter? En fait, tu mets un col roulé, lui, il met des tongs.
L'été, oui. Des tongs et pas de clim.
Je dois dire, j'ai menti. C'est en tongs jusqu'à maintenant, là.
On s'en fout.
Et puis dès qu'il fait un peu plus froid, c'est des charentaises bien françaises.
Eh bien, très bien. Moi aussi, j'en ai en marinière. Alors donc, on est avec Benoît qui nous appelle de Limoges et qui est jardinier. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Benoît, est-ce que vous avez mis un col roulé pour faire comme Bruno Le Maire aujourd'hui?
Non, moi je ne mets pas de col roulé. C'est un jour à marquer d'une croix rouge parce que pour une fois, je suis d'accord avec Fred, qui est quand même relativement exceptionnel.
Je comprends.
Il y en a marre qui nous prennent pour des cons, ces élus à deux balles. Hein. Pour moi, gouverner, c'est prévoir. Et là, on se rend compte que depuis les années 80,
il a prévu qu'il allait faire froid.
Ouais, il prévoit surtout leur réélection, mais il prévoit rien pour la France. Et ça me pose problème. Il y a un moment donné, Monsieur le Maire, au mois de mars ou avril, je sais pas, nous expliquait qu'ils allaient mettre l'économie russe à genoux. Finalement, l'économie russe se porte très très bien, la nôtre beaucoup moins bien. Il y en a marre de faire plaisir aux Allemands avec nos centrales nucléaires qu'il faut fermer, patali patala, pendant que eux, pour l'écologie, ils rouvrent à foison des centrales à charbon. D'ailleurs, au passage, les écolos, on les entend bien sur tout ce qui est un peu histoire de cul, histoire de machin, de ceci, de cela. On les entend pas trop pour le gaz de schiste qui arrive par méthanier, qui consomme une blinde.
Et à un moment donné, je me demande
quand est-ce que nos élus actuels, hein, nos élites, nos héros, vont commencer à réfléchir autrement et planifier ou prévoir.
Mais là, ça vous gêne qu'il soit en pull, en fait. Vous dites, il est en train de se foutre de moi, en fait.
Mais moi, ça me gêne pas. Je m'en fous. Il s'habille comme il veut. Franchement, c'est, je pense que le débat, c'est pas le comment on doit s'habiller ou comment s'habille Monsieur Le Maire. Monsieur Le Maire, il viendrait en tongs, bien que faute de goût, à mon avis. Désolé, Fred. Moi, personnellement, je m'en fous. J'en ai rien à cirer de comment il s'habille. Moi, ce que je vois, c'est que, moi, l'année dernière, l'hiver dernier, je devais avoir aux alentours de 16 degrés chez moi parce que, même si je gagne, je suis un peu au-dessus du SMIC, je gagne pas trop mal ma vie. Je fais attention, je vais pas dépenser, j'éteins les lumières quand je suis pas dans une pièce. Il y en a marre qu'on nous infantilise, ça fait plus de 2 ans qu'on nous explique que, ce qu'il faut qu'on fasse, comment il faut qu'on s'habille, comment il faut qu'on se chauffe. Et je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui cuisinent. Moi, je suis un ancien cuisinier, je cuisine beaucoup. Ouais. Je cuisine à peu près tous les jours. C'est très rare que, alors déjà, j'ai pas de plaque d'induction, j'ai pas de plaque électrique, moi, je cuisine au gaz. Je me sers jamais de mes 4 feux à la fois.
Non, bah ça évidemment. Non mais oui.
Mais
après qu'un jour on va voir Bruno Le Maire en train de cuisiner et il va servir juste d'une plaque.
Il va faire une petite omelette modeste.
Il va mettre un couvercle sur sa casserole. Je comprends votre point de vue.
Attendez, je vais prendre un autre exemple. Mon logement appartient à une mairie.
D'accord.
Hier, j'avais rendez-vous avec un adjoint pour éventuellement changer mes radiateurs pour des trucs basse consommation, plus performants. D'accord, pas de problème. On commence juste à avoir des subventions. Les mairies commencent à avoir des subventions pour ça. Ouais. Comment ça se fait qu'on l'ait pas fait plus tôt? Parce qu'à un moment donné, des passoires énergétiques, des trucs de fou.
Parce qu'on est en train de prendre conscience. Et effectivement, ça a pris trop de temps. Mais Fatima le dit à longueur d'émission. Elle a raison. Mais une fois qu'on a dit ça, l'État commence à prendre conscience qu'il y a un problème. Alors c'est trop tard, évidemment. Non, mais on peut aussi se dire, ça y est, c'est déjà ça, quoi.
Non, en fait, moi, tout à l'heure...
Allez-y, Fatima.
Ouais, tout à l'heure, je pointais du doigt ce que je pense, quoi qu'il en soit, enfin, même si tu n'es peut-être pas d'accord, l'homogénéité de classe de nos dirigeants. En fait, ça pose vraiment une question de conflit d'intérêts par rapport à l'immobilisme qu'ils ont quant aux politiques publiques qu'ils veulent faire. Quand je dis qu'il faut rénover, faire ce plan de rénovation et qu'on peut aller prendre l'argent là où il est, de fait, ce qui va faire frein, en fait, à cette orientation, c'est bien que nos dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques, sont les premiers à avoir les modes de vie les plus polluants. Donc, c'est sûr que, un, ça leur enlève, on va dire, de leur crédibilité quand ils viennent nous donner des leçons, effectivement, avec beaucoup de paternalisme. Et deux, ce n'était même pas un reproche que j'ai fait tout à l'heure à Frédéric Hermel. Je suis la première à le dire. on se comporte comme avec notre position sociale. Moi, j'étais la première idéologiquement à être contre le travail du dimanche. Maintenant qu'il a été démocratisé, je suis la première à consommer et à aller dans un supermarché le dimanche. Okay. C'est comme ça. On fait avec la manière dont est organisée la société, et c'est plus fort que nous. Et on a beau vouloir être des héros, de fait, on fait avec ce qu'on a. Donc, effectivement, quand on a plus d'argent, on se permet de plus chauffer parce que c'est plus confortable. C'est tout. Alors, donc, il faut des politiques qui soient structurelles.
On va remercier Benoît d'avoir été avec nous sur ce débat. Notre invité, c'est Arnaud Benedetti. Il est professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci Arnaud d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Alors, on parle de Bruno Le Maire et de cette fameuse photo de Bruno Le Maire en pull à col roulé. Est-ce que c'est une erreur politique? Parce que là, on peut le dire depuis ce matin, tout le monde se fout de lui. Hein.
Si vous voulez, il confond la politique et la communication.
Mais oui.
C'est-à-dire, il considère que les Français, finalement, attachent de l'importance à la communication, alors que les Français attachent de l'importance à la politique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand un État n'est plus capable, si vous voulez, de faire face à un certain nombre de problèmes de fond, il a toujours tendance à infantiliser sa société. En fait, ce qui se passe là, c'est que les Français ont un rapport à l'État qui est un rapport très construit historiquement. Ils attendent de l'État qu'il les protège, ils attendent de l'État qu'il les projette dans l'avenir, ils attendent de l'État qu'il mène un certain nombre de politiques stratégiques. Et là, en l'occurrence, quand on n'est plus capable de mener des politiques stratégiques, quand on n'est plus capable de protéger les Français, finalement, on s'aligne sur une communication qui est extrêmement infantilisante. Toute proportion gardée, on a vécu ça pendant la crise sanitaire.
On nous a appris à nous laver les mains quand même.
Un certain nombre de constats de déclassement de notre système sanitaire. Et comment ont répondu les pouvoirs publics? Comment ont répondu les gouvernants? Ils ont répondu par une communication qui apparaissait très souvent comme une communication infantilisante. Et on se retrouve, toute proportion gardée encore une fois, un peu dans ce cas de figure avec cette crise énergétique qui est devant nous.
Faut qu'il enlève son pull ou pas sur une prochaine photo, Bruno Le Maire, où il est condamné à le garder tout l'hiver?
Moi, je trouve qu'en plus, même en termes de communication, si vous voulez, c'est une communication qui est très années 70. Ça me rappelle un peu, pour ceux qui ont le souvenir, la communication de Valéry Giscard d'Estaing à ses débuts, il prend son mandat de président de la République. Il changera d'ailleurs, il évoluera parce qu'il se rendra compte que les Français, finalement, qui sont suffisamment gouailleurs et qui aiment caricaturer leurs dirigeants, se moquaient de ce type de communication. En fait, les Français ne souhaitent pas que les hommes politiques parlent forcément comme eux, soient familiers. Ils souhaitent une certaine forme de distance. Ils souhaitent une certaine forme de solennité dans l'exercice du pouvoir, mais il faut que ce pouvoir soit efficace.
Alors, vous avez pas mal de messages, hein, Thibault, sur ce sujet, quoi. Oui. Est-ce que nos auditeurs se marrent en regardant Bruno Le Maire en pull?
Oui. Ils se marrent beaucoup. Par exemple, je le retrouve, Irvine, qui nous dit: j'ai hâte de voir Bruno Le Maire en combinaison de ski en décembre, plaidant l'économie d'énergie. Monsieur Le Maire en pull, c'est pathétique. Je suis en short l'hiver et en t-shirt. Chez moi, ça chauffe à 22-23. Marre des grands penseurs, nous explique Eric. Ces politiques sont, ça rejoint un peu ce qu'on disait, prisonnier de la frénésie de la com, nous explique lui, Frédéric, également.
Alors, on est avec Aïcha qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Aïcha.
Bonjour Estelle, bonjour à votre équipe et bonjour particulier à Fatima.
Ah bah très bien, écoutez, elle est là et elle est tout sourire en vous écoutant.
Ça arrive pas tous les quatre pattes.
Aïcha,
c'est
Aïcha.
C'est vrai que ça arrive pas tout le temps.
Est-ce que vous avez l'impression d'être infantilisée avec Bruno Le Maire?
Oui, alors depuis la Covid, en fait. Donc on doit faire manger. Alors moi j'ai pas de famille, hein, mais bon, je vais parler en général. On devait faire manger papy et mamie dans la cuisine.
Oui.
On devait sortir avec des attestations.
On devait serrer les mains 30 secondes.
Toutes les 30 secondes. Alors que moi, la solution hydroalcoolique, j'ai ça depuis 2014 dans mon sac. Ça, c'est un détail. Enfin bref. Donc en fait, on est aux ordres du gouvernement. Moi, je sais très bien ce que j'ai à faire. En ce qui concerne
Bruno Le Maire.
Bruno Le Maire, donc son pull là, parce qu'il fait froid. Moi, chez moi, il fait froid depuis très très longtemps. Je suis en précarité énergétique. Ils ont commencé à faire les travaux au mois de mai 2022. Pour l'isolation thermique, pour qu'ils puissent augmenter les loyers à partir de maintenant. Donc je sais que je dois mettre un pull par exemple chez moi.
Ouais, vous attendez pas après Bruno Le Maire savoir comment vous habiller et mettre un pull quand il fait chaud, quoi.
Moi, chez moi, il fait pas 25 degrés. Je ne peux pas. De toute façon, déjà, moi, c'est chauffage central. Donc, c'est pas moi qui.
Vous avez pas la main dessus, ouais.
C'est pas moi qui contrôle. Et puis, si je dois rajouter une épaisseur, je rajoute une épaisseur. J'attends pas à ce qu'on me dise, je dois faire ça. Pareil, moi, j'avais mis dans mon message, bientôt, il va peut-être falloir qu'on envoie notre liste de courses pour savoir ce qu'on achète, c'est sain et équilibré.
C'est vrai qu'on est un peu dans l'époque de l'infantilisation, mais merci Aïcha en tout cas de nous avoir appelé au 32-16. Il y a trop d'infantilisation aujourd'hui, Pierre-Edouard, faut qu'on revienne à une certaine sobriété quand même.
Oui, il y a trop d'infantilisation, mais je répète qu'à partir du moment où on transforme les citoyens en enfants, on estime que c'est d'autant plus facile de leur donner des consignes, de les contrôler et de ne plus faire d'éducation, de ne plus faire réfléchir, etc. Et effectivement, on a une histoire dans ce pays par rapport à l'État, et contrairement à ce que pensent beaucoup de politiques, je pense qu'une majorité de gens n'ont pas besoin. On n'avait pas envie de taper dans, je pense, l'exemple facile, on n'avait pas envie de taper dans le dos de De Gaulle ou Mitterrand, pour prendre deux. On en pense qu'on en veut, ils n'ont rien fait de parfait, c'était pas bien parfait,
mais je veux dire,
on
n'avait pas envie de leur taper dans le dos. En col roulé.
Je vous encourage à voir De Gaulle à la plage, hein, une excellente série sur un média concurrent. C'est humoristique.
À la plage en Irlande.
À la plage en Irlande, on l'a vu.
C'est vrai.
Mais pas en tongs, il y a un peu de temps, s'il ne prêtait pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on a effectivement, il y a besoin d'une distance, il y a besoin d'un respect. Je ne parle pas des respects des personnes qui occupent les fonctions, mais le respect de la fonction. Et effectivement, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, on voit que ça descend beaucoup et que les politiques jouent à ça, pensant qu'en se rapprochant des gens, ils vont obtenir leur adhésion, ce qui, à mon avis, est effectivement une erreur. Il faut s'occuper des préoccupations et des besoins de la population qui vous allie, mais s'occuper des besoins et satisfaire ces besoins, ce qui est d'ailleurs légitime pour un politique, ça ne veut pas dire forcément faire comme si on était comme eux, d'autant que tout le monde sait très bien que, et je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Fatima, évidemment qu'ils ne sont pas comme la majorité des Français, eu égard à leur extraction sociale et à leur mode de vie. Et tout le monde le sait.
Arnaud Benedetti, est-ce que tout ça c'est pas de notre faute finalement, parce que on réclame tous l'exemplarité de nos hommes politiques, on les pointe du doigt lorsque le moteur des voitures tourne avec la clim lorsqu'ils sont pas dans leur voiture, on dit que eux dans les ministères ils doivent se chauffer à 25 degrés pendant que nous on nous dit de chauffer à 18. Est-ce que finalement cette photo de Bruno Le Maire c'est pas le résultat de ça? On demande trop d'exemplarité à nos politiques et ils se sentent obligés de faire ce genre de choses.
Il est totalement légitime qu'en démocratie, les élus agissent avec sobriété et exemplarité. Je rappellerai, on parlait du général de Gaulle, mais le général de Gaulle, lorsqu'il était à l'Élysée, réglait lui-même sa facture d'électricité.
Ça, c'est vrai.
Donc, alors évidemment, entre temps, entre mœurs, mais les Français sont très attachés à la fois, encore une fois, à la sacralité du pouvoir, mais aussi à la sobriété du pouvoir, d'une certaine manière. La sobriété du comportement personnel des dirigeants, d'autant plus, ils le sont encore plus aujourd'hui, que nous vivons une époque qui n'est plus celle des Trente Glorieuses, où la facilité économique, la facilité sociale n'est plus la même. Donc quand vous êtes dans une situation qui est plus tendue économiquement, qui est plus tendue socialement, vous avez des exigences vis-à-vis de ceux qui vous dirigent, qui sont, j'allais dire, proportionnellement plus fortes.
Ben merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous sur ce débat. Alors on vous a posé bien sûr la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, j'ai hâte d'avoir la réponse. Bruno Le Maire en photo sur Twitter en pull à col roulé, est-ce que c'est ridicule? Alors tout le monde a dit que oui sur le plateau. Est-ce que c'est la même chose pour nos internautes, Thibault?
Pas du tout, vous êtes 80% à penser que ce n'est pas ridicule.
Ah ben c'est étonnant parce que tous les auditeurs disaient l'inverse, tout le monde sur le plateau disait l'inverse et finalement...
Et Chaudière et Studio aussi.
Écoutez, ouais, voilà, ceux qui nous écoutent, nous regardent. Et en tout cas, vote sur Twitter pense notamment l'inverse de ce qu'on a dit. Dans un instant, ce sera le zapping, le meilleur d'RMC. On se demandera si la laïcité à l'école est menacée. On reviendra sur cette fillette, vous vous souvenez, qui avait été oubliée dans un bus scolaire à l'âge de 3 ans. Ses parents portent plainte. Et puis, les industriels de l'agroalimentaire sont-ils des profiteurs? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi. Midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h30 sur RMC, RMC Story, canal 23, et c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commenter ses meilleurs moments sur RMC ces dernières 24 heures avec Thibaut Texer, avec Pierre-Edouard Magnan, Fatima Benomar et Fred Hermel. Et on va commencer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. La laïcité à l'école est-elle menacée? On a appris aujourd'hui qu'une note du comité interministériel de prévention de la délinquance et la radicalisation mettait en garde contre les prosélytes islamistes. Ces derniers, via les réseaux sociaux, encouragent les jeunes à porter des tenues religieuses, voire à prier à l'école. Une manipulation que notre pays a laissé s'installer. C'est l'avis de Zora Habitant.
Notre pays, il a échoué sur pas mal de choses. Il a échoué en particulier, et là je parle de la gauche que je connais le mieux, elle a échoué sur cette, entre guillemets, vivre ensemble qu'elle a toujours vendue, et sur la fin des ghettos, sur la lutte contre le racisme. C'est-à-dire, elle a échoué partout, mais elle fait comme si ça n'avait pas existé. Et ces jeunes-là, et il n'y a pas d'ailleurs que des jeunes issus d'immigration, parce qu'il y a des Français bien blancs et de souche qui aussi plongent dans l'islamisme. C'est-à-dire que nos futurs, c'est facile. Moi, je dis toujours que si on vide le vivier de ces mômes à la minorité qui les manipule, ils auront plus personne à manipuler. Sauf qu'on traite toujours pas la question. Vous souvenez des attentats? Qui on appelait sur les plateaux? Les religieux. Mais depuis quand on appelle les religieux pour les questions d'éducation, les questions d'insertion, les questions de scolarité? On continue d'appeler les religieux dans les quartiers. Mais faut appeler les éducateurs, faut appeler les infirmiers, faut appeler les psychologues, faut appeler des gens compétents. Le pays, quand il s'agit des quartiers, on appelle les religieux. Zora, qu'est-ce que le religieux a à voir dans l'éducation d'un homme?
Fatima Benomar, est-ce que vous êtes d'accord avec le coup de gueule de Zora Habitant?
Déjà, c'est pas vrai que dans les quartiers on fait forcément appel à des religieux. On fait appel, il y a un énorme enracinement associatif et solidaire. Ce matin
encore,
elle parle des médias. En tout cas, ce matin encore, on était en train de s'organiser pour les 7 enfants roms. Je parle à la municipalité de Montreuil,
qui était association nous toutes.
Non, on parle de l'association locale à Montreuil. D'accord. On fait vraiment de l'entraide. Pour les problèmes de précarité. Pour moi, il y a toujours un problème de clarification en fait. Il y a la lutte contre l'islamisme, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui font du prolétisme, qui ont un but politique. Et par ailleurs, l'un de leurs plus grands arguments, c'est de dire les féministes, la gauche laïcarde, elles sont contre vous, elles s'attaquent à vous, elles s'attaquent notamment au voile et tout. Donc venez vers nous, venez qu'on fasse une organisation solidaire. C'est pour ça que nous, les féministes, en tout cas antiracistes, on n'arrête pas de dire aux femmes, par exemple, voilées, vous êtes chez vous dans notre association, on va pas vous critiquer. Parce qu'on contrecarre la stratégie des islamistes qui disent c'est eux contre nous, vous voyez, au nom des droits de l'homme, ils s'attaquent à votre liberté religieuse. Donc c'est, effectivement, il y a des acteurs de ce qu'on appelle l'islam politique ou ce que vous voulez, qui vont aller approcher, qui vont faire leur éducation populaire à leur sauce, leur discours, qui était déjà celui de Daesh, c'est... Vous voyez, la société française vous repousse, elle attaque votre liberté religieuse, notamment les femmes voilées, en veut vous empêcher d'aller maintenant d'exercer vos droits.
Mais s'ils sont de plus en plus nombreux, c'est un problème.
Et c'est pour ça que nous, on préfère, en tout cas, on n'arrête pas de dire, de venir sociabiliser plutôt dans des associations progressistes, etc., où on lutte à la fois contre le racisme, mais aussi contre le prosélytisme islamiste. Et encore une fois, ne pas faire l'amalgame entre musulmans et islamistes. C'est cette clarification dont on a besoin.
Ils sont manipulés, tous ces jeunes, Fred Hermel, de plus en plus nombreux qui effectivement portent des tenues religieuses à l'école et appellent à, parfois, parce que ça c'est quand même assez rare, à prier dans les lieux scolaires.
C'est quasiment un phénomène sectaire en fait, où les gamins sont totalement sous la coupe de gens qui les manipulent. Et en plus, ils sont très actifs sur TikTok par exemple, qui est un réseau social avec beaucoup de jeunes, et ils savent trouver les messages justement pour plaire à ces jeunes. Et là, le rôle de la société, et notamment de l'école, c'est de protéger les enfants. Donc oui, ça fait froid dans le dos quand on lit ce rapport.
Vous êtes la laïcité est menacée pour vous, Pierre-Edouard Magnan, là, en ce moment?
Le combat est à reprendre parce que un des problèmes majeurs, c'est qu'on a remis notre société dans une capacité à s'identifier en fonction de sa religion. Les attentats étaient évoqués. Moi, ce qui m'avait marqué, au-delà des religieux sur les plateaux, c'est surtout que on assimilait la France, c'était forcément des chrétiens, des musulmans et des juifs. Et je suis très gêné parce que, d'abord, la religion ne suffit pas à définir une personne. Toutes les personnes ne se définissent pas par des religions. Et je rappelle quand même que, normalement, le grand combat de la laïcité, c'est que la religion est une affaire privée qui regarde chacun individuellement et qu'elle sort de la sphère publique. Alors, dans les limites
du public où on est libre de se promener comme l'on veut sur la voie publique, parce que voilà, tant qu'on fait pas de prosélytisme. Mais la question, c'est la question aussi effectivement du prosélytisme. Et donc effectivement, il faut reprendre le combat, et toute une partie de la gauche, notamment en changeant le terme de laïcité par le terme de vivre ensemble qui m'agace, parce que il faut qu'on puisse tous habiter le même pays, mais on n'est pas obligé de vivre ensemble. Il y a des tas de gens avec qui j'ai pas envie de vivre, d'ailleurs pas spécialement pour des questions religieuses, mais aussi pour d'autres sujets. C'est la laïcité, c'est qu'effectivement l'État est neutre, il tolère tous les cultes pour n'en reconnaître aucun.
Puisque ça, il organise
les cultes, mais il n'en reconnaît aucun. Et la phrase est importante. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait un ministre des cultes est toujours un sujet, moi je trouve dans mon esprit, mais ça c'est encore un autre débat, même si on en parle peu, mais voilà, c'est le ministre de l'Intérieur en plus, ce que je trouve très délicat, ou pourquoi on met les cultes avec la police, enfin il y a un côté toujours un peu particulier, mais il faut effectivement ramener, et ce travail d'éducation dans l'éducation nationale, d'éducation populaire en dehors de en dehors de l'éducation nationale, est évidemment crucial pour ramener la religion à une affaire individuelle et privée, quelle que soit, et même l'absence de religion d'ailleurs aussi, et derrière, effectivement, du coup, de remettre la laïcité, qui est le moyen pour permettre à une population de vivre en elle, et d'arrêter de résumer les gens à leur appartenance religieuse, souvent d'ailleurs supposée en fonction de sa tête, de sa couleur de peau, de son nom et de son prénom.
Non, mais là, c'est pas que l'école, parce qu'effectivement, si vous avez beaucoup de prosélytes islamistes sur les réseaux sociaux et qu'ils arrivent à embrigader des jeunes, c'est pas là l'école va rien pouvoir faire. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais c'est pour ça que l'investissement dans les associations, le travail d'éducation populaire sur le terrain, on a déserté l'éducation populaire, qui est un mot qui n'existe quasiment même plus dans les politiques publiques. Il y a encore une vague sous direction dans un ministère où il y a éducation populaire dedans, alors que ça devrait être une politique publique majeure dans le contexte dans lequel on vit.
En fait, l'école est le terrain d'action du travail fait par les islamistes sur les réseaux sociaux, notamment. Par exemple, voilà, ils convertissent entre guillemets à des actions des gamins sur TikTok, et après ces gamins les mettent en œuvre dans leur espace à eux, leur espace de vie, qui est l'école.
Deuxième extrait dans ce zapping. Apolline Matin, ce matin. Rappelez-vous, la semaine dernière, on vous a parlé de cette fillette de 3 ans qui a été oubliée toute une journée au fond d'un car scolaire. Traumatisée, elle semble aujourd'hui aller mieux, mais son père va quand même porter plainte. Il s'en expliquait ce matin chez Apolline.
Ça va nettement mieux. On a réussi avec plusieurs ateliers à la faire monter dans un bus hier. Notre objectif, c'était de désacraliser un petit peu, qu'elle oublie que le bus est synonyme de calvaire, de traumatisme. Donc on en a profité juste après pour aller en direction de son école, puisque depuis elle n'est jamais retournée à l'école.
Vous décidez, et vous nous l'annoncez donc ce matin, de porter plainte.
Tout à fait, parce que moi ça n'a jamais été...
C'était pas votre état d'esprit au départ, pas du tout, bien.
Tout ce que je souhaitais, c'est que ma fille aille mieux. Et le deuxième souhait, c'est que toutes les personnes impliquées dans cette situation prennent conscience qu'on ne transporte pas du bétail.
Ça vous scandalise, cette affaire Fatima Benomar, une petite fille oubliée pendant 3 heures dans un bus scolaire? On se demande même quand ça peut arriver, en fait.
C'est ça, c'est que quand on confie quand même la prunelle de nos yeux au système scolaire, on devrait au moins pouvoir compter sur leur niveau de sécurité, de vigilance, d'encadrement. Juste pour la petite anecdote, hier, j'intervenais dans un collège.
Vous avez été oubliée, ça m'étonnerait.
Non.
Alors là, je veux dire... Celui qui vous oublie, il n'est pas né.
C'est Fred Hermel qui était au volant du bus. Mais enfin,
il a fermé les portes à triple tour.
C'est bon, tout le monde a rigolé, je peux continuer.
Oui, c'est bon.
Donc voilà, et c'était pour dans le programme de citoyenneté et d'égalité filles-garçons. Et voilà, je voyais quand même l'engagement et l'encadrement des profs autour d'eux. Et avec une survigilance, parce qu'on est face à des mineurs. Donc... vraiment toute mon empathie par rapport à cette fillette. Et oui, il faut taper assez fort pour que vraiment ça ne puisse jamais se reproduire, et faire bien entendu une enquête pour savoir comment ça a pu se produire et sous la responsabilité de qui elle était.
Bah, du chauffeur de bus, mais qui manifestement n'a pas fait le tour de son bus pour voir s'il n'y avait pas un enfant caché derrière le siège.
C'est possible.
Alors moi j'ai écouté l'ensemble de l'interview de ce monsieur chez Apolline Matin. En fait, la gamine de 3 ans, c'est au tout début de l'année scolaire, elle n'avait jamais pris le bus de sa vie.
Et si, elle l'avait pas pris le mardi simplement.
Elle l'avait jamais pris. Ce jour-là, comme son grand frère était monté dans le bus, la maman a laissé partir la gamine. Donc la responsabilité, ce sont les parents qui.
Pas du tout, ils l'ont amené au bus. J'ai écouté aussi.
Je peux terminer ma phrase. Qui décide à la dernière minute de laisser monter une gamine de 3 ans dans un bus, une gamine qui n'a jamais pris le bus et qui n'était pas préparée à ça. Donc la responsabilité, elle est d'abord des parents qui n'avaient pas préparé ça.
Mais comment tu peux dire ça?
Mais c'est la réalité.
Mais il y avait son frère dans le bus.
Et pourquoi la famille n'avait pas préparé le frère à accompagner la petite sœur? Moi j'avais une petite sœur. Et on me dit toujours, tu t'occupes de ta petite sœur. Et je veux toujours bien occuper de ma petite sœur.
Mais je veux pas.
Ben voilà.
Alors, il avait quel âge, le grand frère?
Ont commis une erreur et ils veulent faire payer aux autres.
D'accord. Donc, alors, il y a deux secondes, c'est la faute du père. Maintenant, c'est la faute du petit frère, du grand frère.
Mais les parents, il avait quel âge en plus, le grand frère? Non, mais je sais pas, mais trois ans, la gamine. Franchement, ta gamine, tu la mets comme ça parce qu'elle dit, ah, je veux monter dans le bus. Elle n'a jamais monté dans le bus.
Si c'est un bus scolaire et que ça va
à l'école. Sérieusement, tu la laisses partir sans aucune préparation avant, à trois ans? Sérieusement?
Et j'en sais rien.
Ah, tu vois, si ta gamine un matin, alors qu'elle n'a jamais pris le bus, dit maman, je veux monter dans le bus, tu laisses partir.
Enfin, et prenez pas le RER toute seule non plus. Ouais, c'est un bus scolaire.
En fait, tu sais que j'ai raison, je vois et ton sourire. Mais voilà, j'ai raison.
Mais non, mais non.
Et comme toujours, les parents n'assument pas leurs responsabilités et on porte plainte contre un pauvre chauffeur de bus qui a déjà bien de problèmes à régler avec ses gamins dans le bus.
De toute façon, ça ne règle absolument pas la question de savoir comment un conducteur.
Elle était au fond du bus, elle est toute petite, 3 ans, elle est toute petite, il ne l'a pas vue.
Bon, enfin, j'espère qu'une enquête va devenir un vrai. Éclairage, parce que là on a une enquête de contrebande.
Excuse-moi, j'ai écouté toute l'interview du monsieur, c'est le monsieur qui l'a raconté.
Bah, enfin, elle allait à l'école maternelle qui manifestement est loin, donc à un moment, si ses parents peuvent pas l'amener, elle prend le bus.
Elle accompagnait le grand frère et la petite fille, elle, la petite sœur,
elle allait pas rentrer à pied derrière.
Mais si elle était avec sa maman. Et la maman l'a laissé partir parce que la gamine a eu envie de monter dans le bus.
Elle sans préparation. Elle a eu envie de monter dans le bus, mais pour aller à l'école.
Mais oui. Mais d'habitude, la maman emmène la gamine à l'école. Et là, elle veut monter dans le bus, elle la laisse partir. Et puis après, elle s'étonne que la gamine, elle soit perdue.
Ah, d'accord. Non, mais attends.
Mais
le chauffeur du bus, il doit aller voir s'il n'y a pas un enfant caché derrière le siège.
Elle était tout au bout, 3 ans. Elle n'était pas préparée par ses parents à monter dans le bus.
Ok, donc ça, c'est la faute des parents.
Pierre-Edouard,
vous qui avez un enfant.
Moi, j'ai pas entendu toute l'interview, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Le problème là, alors évidemment que d'abord, enfin c'est toujours un scandale parce qu'on tue un petit fille de 3 ans qui a passé une journée dans un bus, enfin
3 heures.
Quand t'es concerné, enfin voilà, il y a une réaction humaine affective qui est légitime. Après effectivement le problème c'est que on arrive maintenant dans une société où il faut que tout se règle devant un tribunal.
Merci.
Je ne suis pas sûr que le tribunal soit le lieu idéal pour réparer les erreurs qui ont été commises. Qu'il y ait une part de négligence d'un parent, qu'il y ait une négligence du chauffeur, qu'il y ait d'autres dispositifs, parce qu'en même temps, comment pendant 3 heures, on a du mal à imaginer qu'elle soit restée assise silencieuse. Alors peut-être qu'elle est restée assise silencieuse et prostrée, soit dit c'est possible, mais là on n'en sait rien et je ne vais pas faire des enquêtes de contrebande, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit devant un tribunal qu'il faille régler ça. La judiciarisation permanente de tous les problèmes, et je comprends le choc, avant tout le choc de cette petite fille, d'ailleurs, entre parenthèses, Dieu merci à son âge. On peut espérer qu'elle va résilier assez rapidement. C'est le seul avantage d'arriver à ce genre de choses à la jeunesse. Mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas mettre les gens autour de la table? Il peut y avoir éventuellement des sanctions de nature administrative s'il y a eu des erreurs de commise. Mais surtout, comment ça a pu arriver? Et effectivement, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça n'arrive plus? Et ce n'est pas toujours devant un tribunal. Qu'est-ce qu'un juge va pouvoir dire là-dedans? Ça va être très compliqué.
C'est une étape très tardive. C'est-à-dire, il n'était pas dans cet état d'esprit-là. Il dit qu'il a changé.
J'ai entendu l'interview. Moi, je n'entends que l'extrait là.
C'est ses amis qui lui ont dit tu devrais porter plainte. Et là, il s'est dit ah oui. Bon.
Pour te protéger, parce que t'as peut-être fait une connerie en laissant partir ta gamine.
Ça, c'est ton point de vue. Mais
ça, c'est l'interview de Fred Hermel qui complète l'interview du père.
Voilà, je trouve ça un peu étrange.
Je suis le seul ici à avoir écouté toute l'interview.
En tout cas, je trouve ça un peu étrange dans une société qui n'a pas reproché aux gens de ne pas aller porter plainte, et notamment la protection de l'enfance ou des femmes. Et puis après, de dire ah ben, vous n'avez pas à porter plainte. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a vraiment eu une mise en danger de cette gamine, et si le père trouve que c'est judicieux, et qu'il le fasse.
Elle n'a pas été mise en danger, puisqu'elle est toujours restée dans le bus avec un adulte dedans. Hein, donc,
Le chauffeur de bus n'est pas resté dans son bus.
Il n'est pas resté pendant 3 heures. Si, parce qu'il a fait plein de tours, en fait.
Il a fait des tours de bus.
Leur massage scolaire, ils passent à des endroits, ils ont
des tours. Je pense qu'il manque un certain nombre d'éléments.
Oui, voilà.
Il y a longtemps que vous n'êtes pas allé à l'école, Estelle.
Vous non plus, manifestement. Bon.
Plus longtemps.
Apolline Matos, ce matin, les industriels de l'agroalimentaire sont-ils des profiteurs? Vous l'avez remarqué, dans vos rayons de supermarché, de nombreux produits manquent à l'appel. Certains sont dus à une pénurie mondiale, comme la moutarde, par exemple. Mais pas seulement pour le président des hypermarchés mousquetaires qui était l'invité d'Apolline ce matin.
C'est un des combats que nous menons à la rentrée. Vous savez, je ne vais pas vous apprendre évidemment qu'il y a une inflation terrible, qu'il y a des événements importants, et puis un certain nombre d'entreprises, de grands industriels de l'agroalimentaire qui profitent de ces circonstances pour augmenter leurs tarifs un petit peu plus qu'ils ne devraient.
Et donc vous dites non, c'est-à-dire
Et nous on dit non. Et dans la circonstance précise, on nous demande des augmentations absolument
impossibles. Alors quand vous dites on, c'est Danone en fait. Hein.
C'est Danone, ça peut être le groupe Mars, c'est d'autres grandes entreprises qui profitent de ces circonstances pour mettre des hausses vraiment pas raisonnables du tout. Les premières hausses qui nous étaient demandées, c'était d'ordre de 22%.
22% d'Anon venait vous voir et vous disait...
Sur les bouteilles d'eau minérale, d'eau gazeuse que vous connaissez. C'est une pression qui est exercée, nous continuons à passer nos commandes, et nous sommes livrés au compte-gouttes, en matière d'eau d'ailleurs.
En fait, ils jouent le bras de fer.
Ils jouent le bras de fer en nous livrant un petit peu moins, et bah, ce bras de fer, nous sommes tout à fait disposés à le mener.
Voilà, les grandes marques rhabillées pour l'hiver, pour le patron des mousquetaires. C'est bien aujourd'hui que justement les patrons d'hypermarchés disent la vérité. C'est pas forcément eux qui augmentent les prix, mais aussi les grandes marques quoi, qui leur mettent le couteau sous la gorge.
Tout le monde est un peu responsable effectivement dans cette affaire. C'est le propre de la grande distribution. On adore taper dessus sur certains sujets et puis en même temps en faire des défenseurs du pauvre consommateur de l'autre côté. Que des grandes marques et que des grands industriels profitent de la crise, c'est une évidence. Je rappelle même sur la question du pétrole, je rappelle qu'il n'y a aucune pénurie de pétrole pour l'instant dans le monde et que ça ne l'a pas empêché de monter dans les prix. Donc on est exactement dans le même phénomène. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'Emile, je veux bien payer un peu plus, j'ai la chance de pouvoir le faire, mes courses, si j'étais sûr notamment que c'est une partie de ces 22% de hausse, c'est même une grosse partie, aille par exemple aux producteurs, puisque dans le même temps, on va aussi nous faire un reportage demain avec les producteurs, qui eux s'en sortent pas et qui vendent à perte. Alors non, mais Mars, cela dit, ceux qui produisent la fève de cacao, ceux qui produisent, etc., Danone, ce qui est officiellement une coopérative, ce qui quand même est un peu me fait dresser les cheveux sur la tête, si les producteurs laitiers vivaient mieux, je veux bien payer plus cher mon litre de lait si je sais que derrière j'ai des producteurs qui arrêtent de tirer la langue et qui arrêtent de vider des caisses entières de lait parce qu'ils peuvent pas, parce que quand ils le vendent, ils perdent de l'argent. Et le vrai sujet, c'est qu'en fait, comme toujours, vous avez l'intermédiaire qui se sert au milieu entre un producteur qui est quand même globalement maltraité aujourd'hui, notamment dans le secteur agricole, parce qu'on parle de l'agroalimentaire, et puis de l'autre côté, un consommateur à qui on dit « Ah, mais c'est pas de ma faute, c'est la guerre en Ukraine ». C'est dingue de voir, je ne savais pas que l'Ukraine était la centrale d'achat du monde entier sur tous les produits. Maintenant, avant, c'était l'ordinateur qui posait problème. Maintenant, dès qu'il y a un problème, c'est la guerre en Ukraine.
Ah, bah ouais, c'est pas le seul problème, mais effectivement, vous pouvez vous attendre à voir les prix monter dans vos supermarchés. Dans un instant, la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera des assurances à la carte bancaire. Est-ce qu'il faut les prendre, ces assurances, ou pas? Et puis, à 14h, on parlera des familles nombreuses. Appelez-nous, tiens, si vous avez plus de 3 enfants, est-ce qu'une famille nombreuse, c'est l'enfer ou le paradis? On en discute à partir de 14h. À tout de suite sur RMC.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est l'heure de parler conso dans Estelle Midi. On parle conso avec Stéphane Pedrazzi. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
La Minute Conso.
Et aujourd'hui, Stéphane, on s'intéresse aux assurances des cartes de crédit. Est-ce qu'il faut les prendre ou pas, ces assurances? Est-ce que c'est une bonne idée?
Alors déjà, toutes les cartes, Estelle, n'ont pas une assurance automatique. Toutes les cartes de paiement, par exemple, celles qui sont prépayées, comme les cartes PCS, n'ont pas d'assurance incluse. En revanche, toutes celles qui sont associées à votre carte bancaire, à votre compte bancaire, c'est-à-dire Visa, Mastercard et aussi toutes les cartes American Express, ont des garanties d'assurance quand vous voyagez, c'est-à-dire maladie, accident, risque d'annulation et de retard, location de véhicule et parfois même protection des achats. Lorsque vous achetez quelque chose, c'est protégé pendant plusieurs semaines avec bien entendu des niveaux de garantie qui sont très différents en fonction du niveau de la carte. Black pour les meilleurs, premium, gold pour la carte intermédiaire.
Mais alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce qu'on a toujours l'impression que, enfin, on prend ses assurances, puis après, en fait, quand on en a besoin, à chaque fois, bizarrement, le motif pour lequel on demande un remboursement n'est jamais compris dans l'assurance.
Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'exclusions. Déjà, pour que ça fonctionne, il faut payer avec la carte. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne en règle générale. Alors, si vous achetez une partie du billet avec un autre moyen de paiement, par exemple des chèques vacances, vous achetez un billet de train, vous payez uniquement une partie du voyage avec la carte, ça fonctionne dans la plupart des établissements. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en ce qui concerne l'assistance, c'est-à-dire pas vraiment l'assurance voyage, mais vous savez, le rapatriement médical, l'assurance juridique à l'étranger, là, il faut pas avoir payé avec la carte nécessairement. Il suffit d'avoir une carte en cours de validité pour que ça fonctionne. Après, est-ce que c'est aussi bien qu'une assurance voyage que tu aurais pu souscrire, par exemple, auprès d'un voyagiste?
Alors, on les prend jamais parce qu'on a la carte.
Oui, alors pour la carte haut de gamme, généralement, haut de gamme, j'entends Visa Premier, Gold Mastercard, c'est à peu près l'équivalent d'une assurance que tu aurais pu souscrire par ailleurs. Pour les cartes ultra premium, c'est-à-dire Visa Infinite, American Express, Platinum, là, les garanties sont en principe meilleures qu'un contrat d'assurance. Et pour les cartes classiques d'entrée de gamme, type Visa Electron, là, c'est vraiment le strict minimum, on va le voir.
Mais toutes ces assurances, pour toutes ces assurances, est-ce qu'il y a quand même des limites? C'est-à-dire que si vous prenez un voyage hyper haut de gamme, le voyage de noces de votre vie, etc., aux Seychelles, est-ce que là, il peut être remboursé intégralement ou on vous remboursera l'équivalent d'un voyage à Beauvais?
Alors, déjà, il faut faire attention à la durée du voyage. S'il dure plus de 90 jours, vous ne serez pas couvert. Généralement,
voilà,
les cartes
voyage,
imposent.
C'est un déménagement.
Oui, mais si vous partez à l'étranger pendant un an étudier et que vous comptez sur cette assurance-là pour couvrir vos enfants, attention, ça ne sera pas couvert après 3 mois. Ensuite, attention au plafond d'assurance dans les pays où les frais médicaux sont très élevés, comme par exemple aux États-Unis. Les cartes basiques ne suffisent pas. Une carte Electron, ça couvre jusqu'à 11 000 euros de frais médicaux, ce qui aux États-Unis est très très peu.
Ça marche pour une angine aux États-Unis.
Voilà, exactement. Et en plus, c'est uniquement une avance. Il faudra le rembourser à ton retour en France.
Ah bon ?
Donc, il faut faire attention. Pour les cartes haut de gamme, les montants sont plus élevés. C'est 150 000 euros, je crois, pour une carte Gold. Et jusqu'à 2 millions d'euros pour la responsabilité civile.
Ah, c'est mieux. Pour les annulations de voyage, comment on fait ? Parce que vous savez que j'ai le cas. J'ai subi une grève et j'arrive pas à me faire rembourser mon hôtel.
Les grèves, désolé, en règle générale, les grèves, Estelle, c'est considéré comme un cas de force majeure, donc ça n'est pas couvert par les assurances. Que ce soit d'ailleurs l'assurance de la carte de crédit ou les assurances voyage traditionnelles, les grèves, spécificité française, ça n'est pas couvert. Alors, le voyagiste vous rembourse le billet généralement, la SNCF la compagnie aérienne, mais si vous avez engagé d'autres dépenses, par exemple une nuit d'hôtel, eh bien ça n'est pas couvert. Donc, mauvaise nouvelle. Ensuite, si c'est vous qui annulez le voyage parce que vous êtes malade, par exemple, sachez que ça fait partie des garanties, mais il faut respecter la procédure, c'est-à-dire il faut appeler la compagnie aérienne si c'est un billet d'avion. Il faut annuler le billet, même si le billet n'est pas annulable et pas remboursable.
D'accord.
On ne le sait pas généralement, mais lorsque vous annulez un billet, la compagnie doit vous rembourser les taxes d'aéroport et taxes carburant, même si le billet n'est pas remboursable, parce que ça ne sera pas pris en compte par l'assurance. Donc, il faut bien respecter la procédure.
On la prend, pas cette assurance.
Mais elle est automatique sur la plupart des cartes. En fait, tu la payes avec ta cotisation tous les mois sans le savoir.
Ah, d'accord.
En cas de retard de bagages aussi, ça arrive très souvent. Sachez que la carte prend en charge l'achat des produits de première nécessité. Vous savez ce que c'est?
Brosse à dents, savon.
Oui, alors effectivement, slip, article de toilette, vêtements.
Et un t-shirt de grande marque, quand même, c'est important.
Un jean, tongs et shorts. Est-ce que le pull noir à col roulé, ça est pris en charge?
En cachemire 5 fils.
Mais ça peut fonctionner à condition de rester dans l'enveloppe.
C'est ça. Ah, il y a une enveloppe.
Oui, la couverture varie de 300 à plus de 1000 euros. Après, si tu dépasses 1000 euros, tu peux choisir de mettre le reste de ta poche. Mais en tout cas, les assurances comme celle de la carte Visa Infinite dépassent les 1000 euros. Ça fonctionne uniquement pour le voyage aller. Attention, au retour, on considère que vous rentrez à la maison, donc vous n'avez pas besoin d'articles de première nécessité. En principe, t'as une brosse à dents
si
dans ta salle
de bain.
J'ai
tout mis dans ma valise.
Oui, mais bon, t'as une deuxième brosse à dents chez toi, en principe. Et puis, t'as des vêtements dans ton placard.
Oui. Ça dépend. Si j'ai tout amené en vacances, on peut pas savoir.
Et en cas de perte de bagages, sachez aussi que vous êtes couvert, mais avec un plafond. Sachez qu'il y a plus d'1 million de bagages qui disparaissent tous les ans, qui ne retrouvent jamais leur propriétaire. Généralement, c'est un démisé au poids. Faut pas avoir une valise pleine de jeans, Dior ou...
Oui.
Voilà.
Vous avez d'autres bonnes nouvelles ou pas, là, Stéphane ?
J'ai d'autres bonnes nouvelles. Si, il y a quand même les limites, si on en a parlé.
D'accord. Oui, enfin, c'est des moyennes nouvelles. On parle de quoi demain,
Alors, demain,
Stéphane,
on parlera d'un truc, c'est le gaspillage alimentaire, parce que demain, nous serons la journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est énorme. Hein. Rien qu'en France, le gaspillage, chaque jour, équivaut à 3 fois le poids de la Tour Eiffel.
Et c'est surtout 67 euros. Par habitant, chaque mois, le gaspillage alimentaire, c'est absolument invraisemblable.
Merci. Et on verra, il y a plein d'astuces, notamment des applications. Par exemple, tu ouvres le frigo, tu dis à une application ce que tu as dans ton frigo, et histoire de vider le frigo, l'application te compose des recettes avec ce que tu as chez toi. Je vais essayer ce soir chez moi, je te raconterai demain.
Ah bah super, merci Stéphane. Stéphane, vous êtes issu d'une famille nombreuse ou pas? Non, je sais, vous êtes fils unique, vous. Mais vous savez quoi? Je le sentais, Stéphane. Il y a des trucs comme ça. On sent les fils uniques. Ils ont un truc particulier. En tout cas, on ne parlera pas d'enfants. Non, vous pouvez le prendre. Très bien. On ne parlera pas d'enfants uniques dans un instant. On parlera de familles nombreuses. Il y a quand même une famille sur 5 en France qui est une famille nombreuse, c'est-à-dire plus de 3 enfants ou plus. Est-ce que c'est l'enfer ou le paradis des familles nombreuses? On attend bien sûr vos témoignages. Au 32-16 et sur l'application RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.